J'espère que je ne vais pas casser l'ambiance. Merci en tout cas pour ces deux chants en particulier qui sont des vieux chants, des chants qu'on a chantés avec d'autres rythmes, mais qui appartiennent, qui disent des vérités tellement larges. On veut dire qu'effectivement, ça fait plaisir de chanter ça avec vous qui nous guidez. C'était très très bien. Ce matin, j'avais envie de partager avec vous quelques textes, un texte déjà pour commencer de la première épître de Pierre. Alors j'espère que je ne vais pas être trop compliqué. Si c'est trop compliqué, vous levez la main. Non, enfin, si c'est trop casse-pied, vous levez la main. Non, c'est bon. Sentez pas obligé de lever tous la main quand même, sinon je m'en vais. Voilà, donc, en Pierre, et on va faire le lien avec ce qu'on vient de dire là. Rappelons-nous ce dernier chant. Hein. Suivons donc l'étroite voie, suivons l'exemple de Jésus-Christ qui nous accompagne, qui est l'ami fidèle et tendre. Il est avec nous et nous sommes appelés à marcher à sa suite. Hein. Je pense que ce qui a été chanté à l'instant, on peut le garder en mémoire. 1 Pierre au chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, Pierre de lui, de Jésus-Christ. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint temple en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans l'Écriture, nous lisons « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. » Mais également la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Je vais arrêter la lecture. Et ça commence par quelque chose qui est étonnant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un oxymore, une pierre vivante. On nous parle de Jésus comme d'une pierre vivante. Une pierre, c'est pas vivant une pierre. Bon, hein, dans la nature, il y a les êtres vivants, l'animal, le végétal, etc., etc. Et puis, il y a le minéral, et par définition, ce qu'on dit du minéral, c'est qu'il n'est pas vivant. Et là, la première des choses qui nous est dite, c'est que nous sommes appelés à nous approcher de Jésus qui, lui, est cette pierre. Il est vivant d'abord, et on l'a rappelé dans la Sainte Cène tout à l'heure. Il est au milieu de nous ce matin, il est avec nous, il est dans nos cœurs chaque instant de notre vie. Quand nous lui avons donné notre confiance, mais il est aussi cette pierre solide sur laquelle nous sommes appelés justement à construire ce qu'on a chanté tout à l'heure, en nous appuyant sur lui. C'est dans un des versets, à vivre en... Je ne sais plus, en nous appuyant sur lui, enfin, vous retrouverez ces paroles. Et les textes de l'Écriture que l'apôtre Pierre cite sont des textes un petit peu... pas tout à fait complet, enfin, il les utilise à son usage, à son dessein, qui viennent d'un psaume et aussi du livre d'Ésaïe. Et on va peut-être lire un peu pourquoi j'ai envie de parler de ces pierres. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 8, alors si j'arrive à tourner la bonne page, il y a beaucoup de pages dans une Bible, chapitre 8, verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre, c'est lui que vous devez redouter. Alors il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre de malheur. Un sanctuaire, à l'époque, hein, c'était pas une basilique forcément, c'était d'abord et avant tout une grande pierre sur laquelle on allait procéder aux exercices rituels, sacrifices, etc., dans les temps anciens. Donc il sera cette pierre sur laquelle va pouvoir se développer le culte à l'Éternel, mais aussi une pierre de malheur, un rocher qui fait trébucher pour les deux maisons d'Israël. Beaucoup d'hommes y trébucheront, ils tomberont, ils se briseront, seront pris au piège. Cette idée de pierre, de Jésus comme une pierre fondatrice, une pierre de base, hein, pour ceux qui sont dans le bâtiment, ils savent ce que ça veut dire, enfin... Aujourd'hui, on a des moyens pour construire plus élaboré qu'à l'époque, mais dans les temps anciens, pour construire une maison, il fallait d'abord choisir un terrain, si possible, solide. Hein, rappelez-vous l'histoire du fou qui construit sur le roc et le fou qui construit sur le sable. Et puis surtout, on mettait des pierres très solides qui servaient de fondation à la maison, qui donnaient une assise de base. Et puis à partir de là, on pouvait construire quelque chose qui était solide. Aujourd'hui, on fait des forages, on va chercher le roc à 30 mètres sous le sol, et puis on met du béton, etc. C'est pas la même chose. Mais allez, voilà, c'est de ce type de pierre qu'il est question. Jésus-Christ est une pierre, la pierre de fondation. Et il nous est dit dans plusieurs textes de l'Écriture que cette pierre, elle est à la fois fondatrice, mais elle aussi celle sur laquelle on peut se heurter. Pourquoi on peut se heurter dans ce contexte-là? Parce que ces textes nous disent que devant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous devons choisir. Nous devons choisir si nous allons accepter de bâtir notre vie là-dessus, sur cette vérité, sur cette certitude, si ça devient une certitude, ou si au contraire, c'est quelque chose qui va plutôt nous heurter, nous empêcher d'avancer. Le terme grec qui est utilisé dans les traductions, là je parle sous couvert des théologiens de la salle, scandalon, c'est le mot qui veut dire obstacle. La pierre de malheur, la pierre d'achoppement, l'obstacle, c'est scandalon, le mot qui a donné scandale en français. Et en fait, on peut extrapoler ces images de la pierre de construction sur laquelle on va se heurter ou qui va nous tomber dessus, etc., sur tout un tas de faits dans notre vie qui peuvent être des obstacles et nous empêcher, au lieu de construire sur cette vérité de Jésus-Christ qu'on a dite, priée et chantée depuis le début du culte, au contraire, ça peut devenir un obstacle parce que on ne va pas y arriver, on ne va pas arriver à avancer. Dans Matthieu, au chapitre 21, Jésus reprend pour lui-même ces textes anciens. Matthieu au chapitre 21, verset 42. N'avez-vous pas lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Mais quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Et je crois que voilà ce que ces textes nous disent, c'est que nous sommes appelés à choisir. Nous sommes appelés à dire de quel côté nous voulons être, de quel côté nous voulons être par rapport à ce fondement qu'est Jésus-Christ. Et je pense que chaque fois que nous voulons à l'Église, chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, nous manifestons, mais nous le manifestons à l'instant où nous le faisons, que nous sommes attachés à ce fondement solide. Mais qu'en est-il demain? Qu'allons-nous faire demain? Comment allons-nous réagir tout à l'heure dans telle ou telle circonstance? Et c'est de ça que je voudrais vous parler maintenant. Parce que le premier verset qu'on a lu dans Pierre, c'est nous parle de Jésus-Christ, pierre vivante. Et puis le verset 5 dit ainsi, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, etc., etc. Nous sommes appelés à faire de même. Jésus-Christ est la pierre fondatrice, celle sur laquelle nous pouvons bâtir, mais nous sommes appelés, nous, à devenir aussi des pierres vivantes qui, ensemble, allons nous édifier comme une maison spirituelle, c'est-à-dire non pas une maison de pierre et de briques, mais constituée des êtres humains que nous sommes. Alors, des pierres, hein, il en existe de toutes sortes. Il y a les pierres précieuses, parfois avec des colliers, des bagues, des choses comme ça. La pierre, elle peut être décorative. Elle est solide quand elle sert de fondation. Elle peut être en vrac, dans des éboulis. À ce moment-là, c'est dangereux de marcher dessus. Puis on peut avoir des cailloux dans la chaussure. C'est toujours une pierre aussi. La pierre, elle peut être agressive. Hein? Les rochers sur lesquels on peut grimper. La pierre, on s'en servait avant pour tuer des gens. Hein, il y a la lapidation, heureusement ça n'existe plus chez nous, mais de multiples exemples dans l'Écriture nous parlent de cette pierre utilisée comme une lapidation. Et la question que je vais vouloir vous poser tout à l'heure, c'est comme des pierres vivantes, édifions-nous, mais quelle sorte de pierre sommes-nous? Quelle sorte de pierre êtes-vous? Quelle sorte de pierre serons-nous là tout à l'heure en sortant de cette église? Et quand il nous a dit « édifiez-vous » comme des pierres vivantes, ben, ça veut dire que nous avons des choses à faire. Ça n'est pas donné, C'est avec nos forces, avec nos faiblesses, avec ce qu'on va réussir, avec ce qu'on va rater. Mais c'est en suivant l'exemple de Jésus que nous avons à avancer dans ce sens-là. C'est des fois compliqué. Moi, j'ai toujours en tête un certain Nicodème qui est venu voir Jésus. Nicodème, c'était plutôt un intellectuel, c'était un savant, c'était un docteur de la loi. Il vient parler à Jésus et Jésus lui dit « Il te faut naître de nouveau ». Et Nicodème met un certain temps à comprendre que c'était une image que Jésus lui donnait. Mais il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Comment un homme peut naître de nouveau? Est-ce qu'il peut rentrer dans le ventre de sa mère, etc. Bon, enfin bref, il a du mal, il argumente pour dire, mais ça ne tient pas debout. Et Jésus, mais voilà, reprend et développe. Et c'est ça, suivre Jésus. C'est pas suivre Jésus à la lettre du genre, que ferait Jésus à ma place, avec je pose une question et j'ai une réponse. C'est nous inspirer de tout ce que Jésus a fait dans sa vie. Et de la manière dont, justement, il a été, lui, plutôt pierre fondatrice que caillou dans la chaussure, plutôt pierre d'angle solide sur laquelle on construit que la pierre avec laquelle on va tuer quelqu'un, plutôt la pierre d'assise qui va servir à édifier quelque chose d'utile, de beau, ou etc., qu'une pierre simplement décorative qui fait bien autour du cou ou, je ne sais pas où, enfin, quelle que soit l'utilisation. Et alors, ce qui est amusant, c'est que celui qui écrit ces paroles, c'est la première épître de Pierre. Mais Pierre, ce n'était pas son vrai nom. Pierre, c'était un surnom que Jésus lui a donné. Il s'appelait Simon, le disciple. Simon, fils de Jonas. Et c'est Jésus qui l'appelait, moi je vais t'appeler Pierre, je vais t'appeler Céphas. Ça veut dire Pierre en grec, je suppose, ou en araméen, je ne sais pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus a décerné dans ce personnage, Pierre, quelqu'un qui allait justement incarner cette idée d'être cette pierre solide. Il dit, Pierre, c'est du costaud. Hein. Et on va lire dans l'évangile de Matthieu un de ces exemples où Pierre a vraiment montré qu'il était, que Jésus avait bien choisi en le prenant comme exemple pour en faire quelque chose de fondateur. Un texte que vous connaissez dans l'évangile de Matthieu. Qui disent les hommes que je suis? Jésus dit, voilà, on entend des tas de trucs, mais il y en a qui disent que tu es le prophète machin qui est revenu, il y en a qui disent ceci. Mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et Pierre a cette parole. Simon Pierre répondit, Matthieu 16, verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole et lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas? Ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas naturellement que tu as trouvé cela, mais c'est parce que mon Père qui est dans les cieux te l'a révélé. Et moi je te dis, oui, tu es Pierre, je t'ai appelé Pierre, je t'ai donné ce surnom de Pierre, et c'est sur cette révélation que tu viens de faire que je vais bâtir mon église. Formidable, Pierre, il a vraiment été à sa place, là. Il a été celui qui portait une parole fondatrice. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, la base de notre foi. Parole fondatrice, c'est comme ça que nous devrions être. Et puis on lit quelques versets après. Est-ce que ça s'est passé juste dans la foulée, ou est-ce que c'était quelques jours après? Peu importe. Mais peu de temps après, Jésus commence à parler avec ses disciples. Puis il leur dit que ça ne va pas être facile, et qu'il va passer par des temps compliqués, l'opposition est de plus en plus importante, et qu'il va même sans doute être mis à mort, mais etc. Enfin, il commence à annoncer des choses dures. Alors là, Pierre, qui se sent investi du pouvoir de consolider la maison, dit « Mais c'est pas possible. C'est pas possible que tu disparaisses. Qu'est-ce qu'on va devenir ?» Ou comment on a pu miser sur toi pendant 3 ans, si tu t'en vas, etc. Et Pierre dit, à Dieu ne plaise, c'est pas vrai. Et alors la réponse de Jésus est cinglante, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, et on retrouve ce mot de scandalone là, que je citais tout à l'heure, tu es un obstacle pour ce qui doit se passer. Ce qui est intéressant, comme je dis souvent, Pierre il me ressemble, enfin c'est plutôt moi qui lui ressemble, voilà, si on regarde la chronologie. C'est-à-dire qu'il a été à un moment, effectivement, fondateur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis quelques instants après, il s'était éloigné. Il n'était plus dans le bon chemin. Il avait perdu le sens de ce que Jésus avait voulu leur apprendre. Et Jésus le reprend. Arrière de moi, Satan. Satan, hein, le menteur. Voilà, ce que tu dis n'est pas la vérité. Tu t'écartes. Et donc c'est bien le même Pierre pourtant, qui a été tantôt fondateur, avec des paroles inspirées, avec quelque chose de solide sur lequel ses compagnons pouvaient s'appuyer, et puis l'Église derrière, et il a été un des fondateurs de l'Église chrétienne, bien sûr, comme on le sait. Mais il a aussi été rocher de scandale. Il a aussi été pierre d'achoppement. Et quand il reprend Jésus, heureusement, il le fait à part, mais bon. Et quand il lui dit, mais c'est pas possible, bah, les autres disciples ont dû avoir des doutes en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça, être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est avoir une attitude, des paroles, quelque chose qui va faire trébucher celui qui est à côté de moi. Pierre a été tantôt l'un, tantôt l'autre. Nous sommes tantôt l'un, tantôt l'autre. Nous savons bien que nous ne sommes pas parfaits et nous avons besoin de nous pénétrer cette idée. Quelle sorte de pierre sommes-nous? Quelle sorte de pierre voulons-nous être? Une pierre fondatrice ou une pierre qui est un obstacle? Nous pouvons même parfois être des tables de pierre sur lesquelles Dieu écrit sa parole. Si nous avons des paroles qui permettent à d'autres d'avancer avec le Seigneur. Et puis parfois aussi, nous sommes simplement le caillou dans leurs chaussures qui les empêche d'avancer. L'apôtre Paul pointe du doigt un certain nombre de comportements où les chrétiens entre eux créent des tensions sur des sujets certes importants, mais qui du coup fragilisaient ceux qui avaient du mal à avancer avec le Seigneur. Il leur parle par exemple dans l'épître dans son épître aux Romains ou dans les Corinthiens aussi, des questions liées aux idoles. Le christianisme était en train de se développer dans le monde païen. Et forcément, il se heurtait à la culture ambiante. Ah oui, naturellement. Culture ambiante où il y avait des idoles auxquelles on sacrifiait des animaux pour obtenir les bonnes grâces des dieux que représentaient ces idoles, etc. Puis c'était de la bonne viande, et c'était de la bonne viande dans des endroits où les gens n'avaient pas forcément toujours à manger. Et donc un commerce se faisait derrière, sur cette viande, hein, comme... À côté des corridas où on vend le taureau, hein, on mange le taureau dans les restaurants à côté, bon, on peut faire la comparaison. Et simplement, ces viandes, elles avaient été sacrifiées à des idoles. Alors, étaient-elles porteuses d'un pouvoir maléfique, ou pas, ou bénéfique, ou maléfique, ou je ne sais pas, magique en tout cas. Certains le croyaient, d'autres étaient persuadés que c'était faux, parce que les idoles n'existent pas. Et en bon chrétien, on dit les idoles, ça n'existe pas. Donc, ça n'a aucun pouvoir sur ça. Oui, mais il y en a d'autres, il y en a qui sont un peu fragilisés par cette idée-là. Et alors, ce que l'apôtre Paul le dit, on va lire dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ne soyez une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et ailleurs, dans l'épître aux Romains, au chapitre 14, il dit, si pour une viande, tu fais chuter ton frère, il vaut mieux t'abstenir de manger de cette viande. Et je pense que c'est là aussi une grande leçon pour nous aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui le problème qui peut nous diviser, ou qui peut nous faire avoir une attitude qui va faire chuter des gens autour de nous. C'est plus les viandes sacrifiées aux idoles, c'est plus un sujet qui existe chez nous. Mais toutes les époques ont leur sujet. Toutes les époques ont leur sujet sur lesquels la société est compliquée à vivre. Nous vivons dans ce monde. Nous sommes heurtés par la société. Hein. Et une époque, c'était la longueur des jupes pour les filles. Hein, voilà. Ou de savoir si on avait le droit de fumer ou pas de fumer. Hein. C'était ça, une certaine époque. Bon, c'est un peu du passé. Quoique, encore... Hein. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres sujets, des sujets de société, qui peuvent peut-être diviser, et sur lesquels nous avons le droit d'avoir des convictions. C'est pas ce que l'apôtre Paul ne dit pas, que vous ne devez pas avoir des convictions. Mais ceux qui disaient, puisque les idoles n'ont aucune valeur, moi je m'en fiche et je mange de la viande sacrifiée aux idoles, ils avaient le droit de faire ça. C'était pas faux. Sauf qu'il y en avait à côté qui étaient fragilisés à cause de ça. Ça les mettait mal à l'aise, et donc ils disaient, mais ce chrétien-là, il ne me respecte pas. Parce qu'eux-mêmes étaient moins avancés peut-être dans leur foi chrétienne, ou parce qu'ils avaient une histoire différente, ou parce qu'ils avaient des parents qui leur avaient enseigné des choses, ou parce que. Et si on ne tient pas compte de ce que sont les autres autour de nous, on peut avoir parfois des attitudes qui font de nous, non pas une pierre sur laquelle on construit, une pierre vivante qui édifie le temple de Dieu, mais au contraire un obstacle, quelque chose qui va empêcher l'autre d'avancer. Alors il y a des questions aujourd'hui de société, hein, sur les lois de bioéthique et tout ce qui tourne autour de la naissance et de la mort, qui pénètre pas mal nos sociétés aujourd'hui, sur lesquelles on peut parfois avoir des opinions comme celle-là. Et encore une fois, chacun a le droit d'avoir son opinion. Mais ce qui est intéressant dans ce texte des Corinthiens, faites tout pour la gloire de Dieu. Et il dit, ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs. Les Grecs, on peut dire, c'est la culture ambiante, c'est la société dans laquelle on vit. Ni pour les Juifs, peut-être les gens bien pensants, moralisateurs ou je ne sais pas quoi. Ni pour l'Église de Dieu, bah c'est ici, là, frères et sœurs, de notre Église et peut-être un peu plus largement d'autres Églises, que nous puissions penser à ça. Alors, quelle sorte de pierre voulons-nous être ? Est-ce que c'est une pierre qui construit ? Ou est-ce que c'est une pierre qui rend les autres fragiles ? Parce que on n'essaye pas de construire avec eux. On est pourtant porteur d'un message aussi radical que celui que Pierre a dit. Quand Pierre disait « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », j'espère que nous tous ici, on peut dire la même chose. Et on peut dire que c'est le fondement de notre foi. Dans son épître à l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul dit quelque chose d'un peu similaire. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice, l'église, bien coordonnée, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés ensemble pour être l'habitation de Dieu en esprit. » Alors, frères et sœurs, que c'est cela qui doit nous rassembler. C'est cela qui doit nous aider à marcher ensemble. C'est parfois difficile. On a un tempérament comme ci, ou des idées comme ça. Et l'église n'est pas l'endroit le plus facile pour que les choses se passent bien, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être espérer ou croire. C'est pas plus facile dans une église que les gens s'accordent ensemble. Et on a des tas de textes dans les épîtres de Paul où il met en garde un tel ou un tel. Vous savez, ce texte dans les Philippiens où, au milieu de cette belle épître de la joie, il dit « Ah oui, je me rappelle au fait, j'exhorte Évodie et Saint-Tiche à avoir un même sentiment et toi, Clément, aide-les à sortir de leurs différends. » Et j'ai toujours trouvé ce passage amusant parce qu'il vient au milieu de cette épître de la joie, hein, Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ah oui, mais il y a un truc qui empêche que tout le monde se réjouisse. C'est qu'il y a deux sœurs là qui se bouffent le nez. Alors pourquoi ? Je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. Mais bref, il y avait un différent. Et ça peut empêcher l'Église de continuer à grandir alors qu'elle a tout ce qu'il faut pour cela. Il y a un seul fondement qui est posé, c'est Jésus-Christ. C'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3. Un seul fondement sur lequel notre existence doit se bâtir. Un seul fondement sur lequel nous sommes appelés à construire ce que nous êtes, ce que nous serons ensemble et individuellement et dans nos existences au sens complet, c'est-à-dire, je parle de l'Église, mais on peut parler de nos familles, on peut parler de notre engagement dans la société, on peut parler de notre vie individuelle. Sachons vraiment nous appuyer sur ce fondement. Jésus-Christ est la pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante, et vous aussi, comme des pierres vivantes, bâtissez ensemble. Et je voulais juste poser cette question, quelle sorte de pierre sommes-nous aujourd'hui ? Et on peut-être la garder dans nos cœurs, mais garder aussi cette certitude que Dieu lui-même est prêt à nous aider et à transformer ce qui doit l'être. Et je mets en parallèle, pour terminer ce verset dans Ézéchiel, au chapitre 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre. » Tiens, encore, on peut avoir aussi un cœur de pierre, je n'ai pas utilisé cet exemple. « J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Que le Seigneur nous accompagne dans ce chemin. Amen.